RCF.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois dans Témoin un homme pour qui le corps et l'esprit avancent au même rythme, un homme façonné par l'effort, la persévérance et aujourd'hui par la foi, ancien champion de France du 400 mètres haies, sélectionné en équipe de France, auteur d'une victoire mémorable face au légendaire Edwin Moses. Philippe Gonigam a connu l'exigence, les doutes, l'intensité du sport de haut niveau, mais il est aussi un recommençant dans la foi, un homme dont la vie a basculé au fil d'épreuves, de découvertes et une quête intérieure partagée avec son épouse Sophie, déléguée épiscopale à la pastorale du sport dans le diocèse de Metz, organisateur du premier congrès européen dédié à la pastorale du sport. Philippe explore aujourd'hui les liens profonds entre foi chrétienne, corps, performance et humanité. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, ses engagements, sa conversion et sa vision unique du lien entre foi et sport.
Témoin, Pauline de Torsiac.
Philippe Gonigam, bonjour.
Oui, bonjour Pauline.
Bienvenue dans Témoin cette semaine. Vous êtes délégué épiscopal à la pastorale du sport dans le diocèse de Metz. Je disais ça en introduction. Qu'est-ce que cela signifie, être délégué épiscopal à la pastorale du sport? Comment vous définiriez votre mission?
Eh bien, ma mission, c'est effectivement de faire passer le message de l'évangile en ayant comme support le sport, qui a été une activité qui m'a construit tout au long de mon parcours personnel et professionnel.
On va revenir, Philippe Gonigam, sur votre parcours, sur votre enfance. Vous et votre frère jumeau, vous avez été confié à une famille d'adoption, vous aviez 7 mois. Peut-être racontez-nous un peu votre enfance et en quoi finalement le sport a été déterminant dans votre histoire.
Alors, c'est vrai qu'aussi on doit expliquer l'activité, en tous les cas l'engagement qu'on a pris dans la pratique d'un sport de compétition, c'est effectivement ce premier basculement. C'est vrai que démarrer par un abandon, qui est celui d'une maman qui a laissé des jumeaux, c'est pas forcément une très belle histoire, mais elle le devient dès lors que on va être d'abord confié, c'est exactement le terme, dans une famille, on était dans une situation de placement, dans une première étape, et 9 ans après, on va devenir leurs propres enfants, enfin en tous les cas pour moi ce sont mes parents, hein, ce sont nos parents, et c'est une belle histoire, mais qui a amené à avoir d'abord peut-être des fragilités, mais également un carburant qui était ancré en nous-mêmes, mais qui avait cette volonté, ce carburant qui nous a poussé à exister. Et c'est vraiment le terme d'exister, la pratique de la compétition, c'était réellement dans l'idée de pouvoir avoir un nom, d'être reconnu. Et vous voyez que les termes sont bizarres, puisque donc quand on parle de reconnaissance, dans reconnaissance, il y a également naissance. Mais donc c'est vraiment ce point de départ qui fait que globalement, on va se retrouver avec cette énergie et cette volonté de faire de la compétition, alors que très concrètement, nous n'avions pas du tout le profil, on va dire, physique à pratiquer une activité à haut niveau, et encore moins dans notre discipline qui était le 400 mètres haies.
Alors justement, c'est très beau ce que vous racontez. Alors à quel moment finalement vous vous mettez au sport et vous en faites, vous vous dites que c'est par ce sport-là que je vais pouvoir exister, que je vais finalement accomplir cette renaissance. Quand est-ce que vous avez compris finalement que vous alliez atteindre ce niveau d'exigence pour atteindre ce niveau de sportif de haut niveau?
Alors c'est une question difficile parce que je ne sais pas s'il y a un moment, un point de bascule qui nous arrive et qui nous amène à avoir cette réflexion. En tous les cas, c'est une étape, c'est des étapes très progressives puisque l'activité démarre à l'âge de 9 ans, qui va ensuite se transformer en une aventure familiale puisque mon frère jumeau va également être international. On a des sélections en commun où on a représenté la France sur cette discipline, ce qui était un souvenir extraordinaire. avec la cerise sur le gâteau, un entraîneur qui était notre père, celui qui nous a accueillis. Et souvent, en s'amusant, on dit avec mon frère qu'on a, nous, on a eu la chance de choisir nos parents. Cette aventure familiale a été très structurante. Et c'est vrai que il n'y a pas eu un point de démarrage, mais bien une évolution très progressive, parce qu'on a dû se battre au fur et à mesure pour passer d'une échelle à l'autre, d'un niveau départemental à un niveau régional, puis à un niveau national, et puis ensuite sur le plan international. Donc ça a été très progressif.
Ça a été très progressif, vous l'avez dit, c'est une aventure familiale et ça donne tout le sens finalement à ce que vous avez accompli. Vous avez été champion de France du 400 mètres haies en 86. Ça représente quoi pour vous ce titre aujourd'hui ? C'est cet accomplissement, cette forme de renaissance dont vous parlez ?
Alors vous savez, le titre, il a une présence, en tous les cas, il me poursuit par rapport aux autres. C'est parce que j'ai été champion de France que les gens peuvent avoir un regard. Ce titre me permet d'être reconnu en tant que... Mais en ce qui me concerne, c'est pas un point d'orgue. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est un souvenir et ça fait partie du passé. Je souriais, il y a pas longtemps, j'étais avec un ancien joueur du FCMS, qui était le capitaine du FCMS, avec lequel j'ai fait l'armée, puisqu'on faisait l'armée à notre période. Et des passants nous ont vus en Moselle, et ils nous ont dit bonjour les sportifs, sachant que j'ai fini ma carrière à 29 ans et que ça fait bien longtemps que je me considère plus comme le sportif ou un sportif de haut niveau. Ça fait partie de notre parcours, donc ça nous a fait sourire, et c'est vrai que ça reste dans les esprits de ceux qui ont suivi nos carrières sur le plan local. Donc c'est assez amusant.
Vous êtes assez humble en fait.
Non, je suis réaliste. Vous savez, j'ai passé 29 ans à avoir un projet qui est celui de courir plus vite qu'un autre. Vous savez, si on doit le résumer comme ça, je crois que l'intérêt de ces parcours, c'est la façon dont on a profité de ces objectifs, de cette vision, de cette volonté de performer pour ensuite l'utiliser d'une manière constructive. Je vous dis, si on reste simplement le sportif qu'on a été, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on a couru plus vite qu'un autre. Et ça amène pas forcément à des vies très, très, très valorisantes. Je crois que ça fait partie des parcours et la compétition, ça a eu été. Il faut pouvoir l'utiliser dans le bon sens. Voilà.
Philippe Gonigam, quel est votre plus beau souvenir, peut-être aussi fierté, même si vous l'avez dit, voilà, ça reste le passé, mais il y a quand même un souvenir que vous gardez en tête, non ?
Écoutez, on vous en partageait deux. Le premier souvenir, c'est d'abord d'avoir été en sélection sur la discipline du 423, quand il y a deux représentants par nation et que pour la France, c'est votre propre frère et vous-même qui êtes sélectionnés. C'est un moment très particulier, avec beaucoup de plaisir, sachant que porter le maillot de l'équipe de France, c'était plutôt un rêve au départ de notre carrière. C'est vous dire aussi que quand vous vous retrouvez dans une chambre d'appel à un grand championnat, là moi je pense peut-être au championnat du monde auquel j'ai participé en 1987, vous êtes dans une chambre d'appel pendant au moins 45 minutes dans une petite salle avec vos concurrents, et que quand vous les regardez tous, vous vous rendez compte que vous avez plus de la moitié de ces concurrents qui sont en poster dans votre chambre. C'est assez étrange également. Donc voilà, on a des petits souvenirs de parcours, et puis également tous les voyages qu'on a pu faire et les belles rencontres. Et ça, c'est quelque chose qui est un capital fantastique.
Et votre victoire face à Edwin Moss, c'est aussi ça fait partie des petites fiertés quand même, j'imagine.
Je dirais plutôt que c'est une anecdote, parce que en fait, cet Américain qui dominait ma discipline, ma discipline, je me l'approprie déjà, cette discipline avait un nombre de victoires enchaînées qui était extraordinaire, et juste avant de venir à Paris, il va être battu par un autre Américain en fait, son rival sur son territoire, et quand il est venu à Paris, il avait l'idée de battre le record du monde je sais pas si c'est pour se venger, mais enfin, en tous les cas, pour répondre à l'affront qu'il avait vécu quelques jours avant en Espagne. Et en fait, il va partir beaucoup, beaucoup trop vite. Et vous savez, le 400 mètres haies, c'est non seulement à 400 mètres, il y a 10 obstacles. Et la dernière ligne droite est des fois très, très difficile. Et en fait, il va toucher l'avant-dernière haie et il va trébucher, il va tomber. Et c'est comme ça que j'ai battu le meilleur du monde, vous voyez. Donc, c'est pas très honorable, c'est plutôt une anecdote.
Vous êtes vraiment décidément très humble. Pour vous, les clés de la réussite pour un sportif, quelles sont-elles ? En tout cas, qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce niveau-là et de gagner ?
Vous avez sur le plan physique, le centre de gravité, quand on doit le situer par rapport à un corps, il est souvent près du nombril. Moi, j'ai tendance à penser que pour réussir, il faut l'avoir près du cœur. Ça veut dire en fait qu'il faut reprendre sa discipline et l'aborder avec de très bonnes intentions. Souvent, je dis qu'on peut faire de très belles choses pour de très mauvaises raisons. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de la compétition pour de très bonnes raisons. Donc bien centrer le cœur, ce qu'on pense, ce qu'on a envie, ce qu'on est, et de le faire de façon très honnête et de façon très spontanée. Et l'objectif, c'est pas forcément la victoire. Vous savez, les victoires, ça construit fatalement. Mais il faut utiliser les très bons moyens pour gagner. Et malheureusement, et vous le savez, dans plein de domaines, on peut utiliser de mauvais moyens. Dans le sport, vous savez que il y a la présence du dopage ou d'autres moyens. Et c'est pour ça que les victoires, faut toujours les relativiser. L'idée, c'est d'être dans une intentionnalité qui doit être juste. Et là, vous pouvez percevoir tout le capital de quelque chose que vous avez construit dans le domaine du sport, mais qui vous sera utile et retransposable dans d'autres périmètres, qui peut être le périmètre de la famille, du travail, etc.
Une intentionnalité juste, je crois que c'est ce qui vous caractérise, Philippe Gueniga, mais au quotidien, c'est une exigence, une discipline de vie aussi, peut-être ?
Ah oui. Oui, absolument. Cette discipline de vie, comme je vous le disais au départ, sur la partie sportive, n'ayant pas toutes les qualités, il fallait être juste sur tous les secteurs, tous les leviers de performance, en passant par la diététique, le sommeil, l'hydratation, la préparation physique, enfin l'approche technique, tactique. Donc tous les leviers ont été exploités au maximum. Et donc cette attitude et cette réflexion préalable qui devient un peu stratégique, vous amène à vous structurer, à avoir, des codes, mais comme je le disais tout à l'heure, dans l'intérêt de pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres domaines. Vous aviez parlé dans votre introduction de persévérance. C'est vrai que dans les parcours de foi, la persévérance est une vraie qualité. Et puis, cette capacité ou cette volonté d'apprentissage, cette capacité de travail, toutes ces choses-là sont fabriquées en tant que jeune dans cette partie sportive, mais ensuite, elle peut être appliquée même à la foi.
Témoin, Pauline de Torsiac.
Et cette semaine, dans Témoin, je reçois Philippe Gueniga, délégué épiscopal à la pastorale du sport dans le diocèse de Metz. Vous avez organisé le premier congrès européen dédié à la pastorale du sport au mois d'octobre. Vous êtes ancien champion de France du 400 mètres haies. Philippe Gueniga, vous êtes marié depuis 33 ans avec Sophie et vous dites être des recommençants tous les deux. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle place jouait votre foi dans votre vie avant justement d'y revenir. Et quels sont les événements qui ont rebattu les cartes finalement ?
Alors, notre parcours, je vais commencer par le mien, est un parcours d'un garçon qui a vécu dans une cité minière et qui a vécu le catéchisme comme tous ses copains, a été enfant de cœur comme tous ses copains et a mené son parcours comme tous les copains. Donc on était plutôt dans une logique culturelle et ensuite le sport m'a amené à me déplacer, dans un autre département pour poursuivre mes études et ensuite un peu plus loin. Et donc j'ai personnellement quitté le chemin de l'Église. Sans avoir à me justifier, en sachant que déjà, par principe, le dimanche, c'était jour de compétition, et le mercredi, jour d'entraînement. Enfin, au terme de la carrière, on était sur de l'entraînement quotidien, bien évidemment. Donc, il y avait très, très peu de place pour poursuivre et pour comprendre également l'espace que ça pourrait occuper. Donc, très éloigné et finalement, je vais retrouver l'église pour me marier. Et puis je vais repartir avec mon épouse sur le chemin plutôt du travail. Et cet engagement va nous amener, alors sur le plan familial, à avoir trois beaux enfants et tout s'est très très bien passé. Sur des parcours professionnels honorables, on avait, on va dire, comme on peut l'entendre, une vie réussie. En tous les cas, dans les apparences, on était vraiment enviable. Sauf qu'il nous manquait quelque chose et mon épouse était vraiment en recherche. Et pour moi, il y avait vraiment, et c'était assez clair, bah peut-être le chemin de l'Église et on n'y allait que de temps en temps et notamment pendant les vacances. Et le point de bascule a été un livre, j'ai plus du tout l'auteur, je suis désolé, mais enfin en tous les cas un livre sur le versant plutôt historique de la vie de Jésus. Et j'avais entendu ça à la radio, en fait, et j'ai couru à la FNAC pour récupérer le livre que j'ai eu tout de suite, d'ailleurs. Et mon épouse l'a dévoré. Et en fait, elle va me dire que Jésus a existé, ce qui a été pour elle une révélation, mais pour moi aussi, en fait. Puisque donc, avec du recul, j'avais l'impression que c'était plutôt une belle histoire. Quand j'ai fait du catéchisme, c'était plutôt dans cette dimension-là. Et puis, des règles de vie pour être un bon garçon. Et en fait, cette information, en tous les cas, cette affirmation, ce postulat, Jésus a existé, m'a clairement renversé. J'ai lu le
livre.
Bouleversé. Ah oui, absolument. Et j'ai acheté la Bible. Et quand vous ouvrez la Bible, vous savez bien que ça peut apparaître compliqué. Ça m'a permis de prendre rendez-vous avec le prêtre de mon village et qui nous a initiés. Puis ensuite, mon épouse et moi, on est partis en Terre Sainte. On a fait de nombreux parcours avec le prêtre qui nous a initiés, de nombreux parcours à pied sur les territoires que vous connaissez certainement, mais entre Nazareth, Mont-Tabor, Bethléem, tous ces chemins qu'on peut identifier dans la Bible, on les a fait à pied. Et ça nous a vraiment amené à nous approprier la valeur de la Bible, enfin en tous les cas des messages qui sont portés dans la parole. Et puis et donc ça nous a donc ce démarrage, c'est 2015, vous voyez, c'est assez récent, mais on s'est vraiment engagé, on a vraiment recherché, travaillé. De façon très concrète, on a arrêté nos activités professionnelles pour nous engager complètement dans la voie de la foi. Et aujourd'hui, mon épouse, qui était expert comptable, commissaire aux comptes, qui était engagée, associée, etc., est comptable de l'évêché. Et moi, je suis délégué épiscopal. Voilà.
Un vrai changement de vie, une vraie recherche et une forme de renaissance aussi. Vous parliez de renaissance aussi tout à l'heure de la foi. Je crois aussi que vous avez été interpellé, vous avez perdu vos parents, ça a été un choc, et vous vous posiez des questions également autour de la mort, de ce qui peut se passer après. Est-ce que ça a été aussi un chemin de foi ?
Alors oui, tout à fait. Ça s'est produit un petit peu avant. Quand j'ai perdu mes parents, je ne peux pas dire que c'est une chance, mais en tous les cas, j'ai pu les accompagner jusqu'au bout. Et le fait de vivre ce moment m'a permis de constater, comme une évidence, qu'ils n'étaient pas morts, mais qu'ils étaient partis. Qu'il y a un temps de passage, et en tous les cas, je l'ai vraiment ressenti, et c'est même pas une conviction, ça s'est installé comme une évidence en moi, et avec toutes les interrogations qu'il y a derrière ce passage, mais où et comment, etc. Et donc c'est effectivement aussi un point de départ de la réflexion dans les années, donc c'était dans les années 2002-2004. Donc vous voyez, une dizaine d'années après, on arrive à avoir des clés plus précises pour bien comprendre le chemin et les messages que j'ai pu avoir.
Philippe Gonigam, vous êtes également, on l'a dit, un aumônier sportif. Est-ce que finalement votre histoire, votre parcours de vie est un atout pour éclairer les sportifs sur leur questionnement, sur leur besoin spirituel, humain. Finalement, est-ce que vous avez plus de facilité à leur répondre ?
C'est une question difficile. Moi, je pense que dans une première étape, je ne suis pas là forcément pour répondre, mais plutôt pour écouter. Et le fait de pouvoir les accueillir en ayant une identité sportive, les les rassure. Enfin, en tous les cas, je sens une forme de crédibilité. Je dis ça avec, en mettant bien les guillemets, mais ils se sentent en confiance et en famille. Et c'est vrai que je connais leur environnement, je peux comprendre certaines souffrances, et donc en matière d'écoute, c'est un peu plus simple.
Quels sont leurs besoins spirituels ou humains quand vous les rencontrez? Enfin, quel type de besoins ils expriment?
Ils sont dans une activité qui est structurée autour du doute et l'incertitude. Au rythme de la saison, des week-ends et des compétitions qu'ils affrontent, eh bien, ils ont très peu de base de certitude. Ils sont remis en question toutes les semaines. Est-ce que je suis sur la feuille de match? Est-ce que je vais jouer? Quel va être le temps de jeu? Et toutes ces questions-là amènent à une mesure qui est leur valeur économique. Parce que s'ils n'ont pas assez de temps de jeu, ils ont moins de valeur. S'ils n'ont pas gagné, s'ils n'ont pas marqué de but, ils n'en ont pas arrêté, etc. Donc, de façon statistique, ils vont perdre de la valeur. Et donc, au quotidien, ils sont dans la mise sous pression. Et c'est quelque chose de terrible. On a aujourd'hui des outils de mesure de médaillabilité. Je ne sais même pas si ça existe, mais en tous les cas, c'est le terme médaillabilité, donc potentiel à être médaillé en fonction de plein de critères. Vous êtes ou vous n'êtes pas, ou vous pouvez être ou vous pouvez être pas. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, c'est quelque chose de très, très difficile à vivre au quotidien. Et donc, la performance est le résultat du passage de ce désert, parce que quand on parle de cette incertitude, elle fabrique du stress, elle fabrique de la tristesse, elle fabrique de la pression psychologique. Et donc, au-delà de ça, il faut qu'on arrive, enfin, en tous les cas, le sportif, il a besoin, en dehors de la partie psychologique, je ne suis pas psychologue ou psychiatre, mais en dehors de l'approche psychologique, de pouvoir leur faire saisir qu'il y a quelque chose de plus grand. Qu'en fait, un titre olympique, c'est pas la fin en soi d'une vie. Et je me rappelle de Pierre Quinon, qui était un copain, qui a 22 ans, est devenu champion olympique à Los Angeles, donc en 1984, donc à 22 ans, et qui, donc les saisons suivantes, va se blesser, etc., et il pourra pas défendre son titre en 88, et qui finalement, dans son parcours de vie, va se suicider, va mettre un terme à sa vie. Et il m'avait dit préalablement qu'il avait commencé sa vie par la fin. J'avais pas très bien saisi le message tout de suite. Mais donc, pour certains, la finalité, c'est effectivement la performance. Et quand c'est la performance, vous voyez bien que ça ne résout pas tout. En tous les cas, c'est pas quelque chose qui peut vous combler et qui peut être une réponse à tout. Et c'est peut-être pour ça qu'un aumônier peut, on va dire, décentrer, en tous les cas, peut-être amener à une réflexion sur l'essentiel.
Le corps et l'esprit sont indissociables selon vous, enfin, on le comprend à travers vos propos, mais voilà, est-ce que c'est important de le redire?
Moi, je pense que le sportif peut en avoir conscience assez rapidement. Je pense que c'est plutôt dans la division de l'Église où peut-être c'est moins bien entendu.
C'est pas une évidence aujourd'hui dans l'Église.
Je le ressens pas en tous les cas comme cela. Cet équilibre de vie spirituelle, enfin, en tous les cas, la vie spirituelle ne peut être qu'équilibrée dès lors qu'on a également un souci de se prendre, enfin, en tous les cas, de prendre soin de soi sur le plan corporel. Je pense qu'il y a un équilibre. Je pense, par exemple, à un terme qui m'avait touché, mais c'est que le corps peut être un objet de chute. Alors, pas forcément que physiquement, mais objet de chute. Quand vous imaginez tout ce qu'on peut imaginer derrière, enfin, en tous les cas, la connotation que ça peut avoir. En fait, je pense que si c'est un objet ou ça peut être un objet de chute, à l'inverse, ça peut être également un objet de rédemption. Ça veut dire qu'à travers une pratique d'activité, on est en mesure peut-être de toucher de près, parce que ça va dans les deux sens. Donc, tout le côté spirituel. Et finalement, j'ai eu la réponse très rapidement, puisque on va dire que les plus grands pèlerinages se font toujours à pied, donc dans le cadre d'une activité physique. Donc l'activité vous amène à être dans des dispositions qui vous permettent des fois de mieux réfléchir, mais également d'avoir cette ouverture à la spiritualité.
Donc c'est un message que vous délivrez aujourd'hui, prendre soin à la fois de son corps et en même temps le corps et l'esprit sont indissociables, il faut que l'Église l'entende, c'est ce que je comprends. un dernier mot, Philippe Gonigam, est-ce que vous avez un souvenir des JO de Paris, parce que c'est récent, mais ou autre, peut-être une confidence d'athlète sur sa foi, qui vous aurait marqué plus particulièrement?
Alors c'est difficile de sélectionner, parce que la vie au village olympique, c'est démesuré en sensations, en émotions. Mais je vais vous partager juste un exemple. Il y a un Français qui a fait un carton aux Jeux olympiques. Il est champion olympique, voilà le vrai gros truc, qui va rentrer après sa compétition et qui va dire: je viens de me rendre compte que je ne peux plus aller au restaurant. Et vous avez, dans la seconde qui suit, un autre message qui dit: ben, moi non plus, mais à partir du 5 du mois. Et ça, quelque part, bon, en termes d'humour, j'avais beaucoup aimé, mais surtout, ça permet de nous rendre compte que quelqu'un qui va toucher de près le Graal, enfin, qui va toucher le Graal, qui va décrocher cette médaille olympique, qui ne peut plus aller au restaurant parce qu'il va être embêté par les selfies et compagnie, se retrouve dans la même problématique que celui qui a des soucis financiers, qui n'est pas en mesure de se payer le restaurant. Donc on est face à la même problématique, alors qu'on est dans des situations bien différentes. Donc finalement, on est tous pauvres, ou en tous les cas, voilà, on est tous confrontés à la même problématique, et donc la médaille d'or ne résout pas tous les soucis. Et on peut, même avec une médaille d'or, être confronté à la même problématique que celui qui est en difficulté financière. Alors ça m'a vraiment, autant je veux dire spontanément, mais fait sourire, puisque je trouvais que le trait d'humour était très bon, mais finalement, ça a été un message très profond.
Un message profond à méditer. Merci beaucoup, Philippe Gonigam, d'avoir été avec nous cette semaine dans Témoin. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr et sur toutes les plateformes. Merci.
Merci à vous.
Vous êtes toujours là ?
Oui, toujours.
Bon,
oui.
Un immense merci.